Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Il y a quelqu'un au milieu de vous que vous ne connaissez pas. Chers frères, cette réponse de Saint Jean-Baptiste aux pharisiens qui étaient venus nombreux de Jérusalem pour l'interroger, pour savoir si oui ou non il était le Messie, a quelque chose de vraiment admirable. Il dit en effet, dans ces quelques mots, trois choses à la fois. Premièrement, que ce n'est pas lui le Messie. Il n'en est que le précurseur, sa mission n'est que d'annoncer le Messie. Ce n'est pas lui. Deuxièmement, ce Messie qu'ils attendent, il est déjà là. Il est parmi eux. C'est l'un des Juifs. Et troisième chose, eux, ces grands docteurs de la loi, qui se targuent de connaître cette loi mieux que personne, qui ne se privent pas pour faire la leçon aux autres, ne savent pas qui est le Messie. Ils devraient savoir. Ils en ont la mission. Ils ne le savent pas. Il y a quelqu'un au milieu de vous que vous ne connaissez pas. Mais à bien réfléchir, ces paroles de Saint Jean-Baptiste s'appliquent aussi d'une certaine manière à nous. Il y a quelqu'un au milieu de nous que nous ne connaissons pas ou que nous connaissons mal. Un simple constat que nous faisons tous, lorsque nous sommes seuls, loin de nos amis, loin de nos occupations, alors il s'établit en nous-mêmes une conversation. Conversation avec nous. Et cela peut se produire même dans une rue très fréquentée, au milieu d'un grand tumulte, ou dans un autobus bondé de monde. Nous sommes seuls et nous parlons avec nous-mêmes. Cette conversation, bien sûr, n'est pas la même pour tous. Elle varie selon les tempéraments, elle varie selon les âges, elle varie selon les centres d'intérêt. Mais surtout, elle varie selon que l'homme est bon ou qu'il est mauvais. La conversation intime avec lui-même d'un homme qui vit dans le vice n'est pas la même que celle d'un homme vertueux qui cherche le bien. Pour celui qui cherche le vrai, pour celui qui cherche le bien, cette conversation intime avec lui-même va devenir une conversation avec Dieu qui habite dans son âme par la grâce. Et c'est cela, cette conversation intime avec le bon Dieu, que l'on appelle la vie intérieure. Cette vie intérieure, ainsi conçue comme conversation intime avec le bon Dieu, est beaucoup plus profonde que la vie intellectuelle que peuvent avoir certains grands savants, certains mathématiciens, certains philosophes. Elle est plus profonde que la vie artistique d'un peintre ou d'un musicien. Plus profonde encore que la vie littéraire d'un grand écrivain. Combien d'hommes, en effet, qui brillent dans tel domaine particulier du savoir, qui ont des connaissances très poussées sur la structure de l'atome, par exemple, ou qui spéculent sur des concepts philosophiques, et qui sont complètement dépourvus de toute vie intérieure, aucune communication avec le bon Dieu. Cette recherche du vrai et du bien dans un certain domaine très précis est tellement entachée d'orgueil intellectuel qu'elle ne leur apportera rien pour le ciel. D'ailleurs, quand ils se retrouvent seuls, avec eux-mêmes, quel vide! Le vide de leur concupiscence, le vide de leur orgueil, de leur égoïsme, tout est centré sur eux. Il y a quelqu'un au milieu de nous que nous connaissons mal. Quelle est-elle cette vie intérieure, cette vie surnaturelle avec le bon Dieu? Don Chotard, dans son excellent livre, L'âme de tout apostolat, nous donne quelques points de repère. Premier point, la vie intérieure, la vie surnaturelle, en nous est la vie de Jésus lui-même. Cette présence de notre Seigneur en nous par la grâce sanctifiante est une vie réelle, c'est une présence vitale. Et c'est une vie bien supérieure que notre Seigneur met en nous par sa grâce que celle que nos parents nous ont donnée à la naissance. Nous recevons cette vie surnaturelle, cette vie intérieure au baptême. Elle est perfectionnée par la confirmation. Si nous la perdons malheureusement par le péché mortel, nous pouvons la recouvrer par la confession. Mais surtout, elle est entretenue, elle est développée, elle est nourrie par le sacrement de l'Eucharistie. C'est le sacrement de l'Eucharistie qui est sa nourriture. Et par cette vie intérieure, cette vie surnaturelle, notre Seigneur Jésus-Christ va nous communiquer son propre esprit. Cet esprit qui est un principe d'activité supérieure qui nous porte à penser, à juger, à aimer, à vouloir, à travailler, à souffrir avec notre Seigneur Jésus-Christ. Pour être avec lui, pour tout faire par lui, en lui et comme lui. Cette vie que met notre Seigneur dans notre âme est donc l'activité d'une âme qui réagit pour régler et corriger ses tendances naturelles, ses défauts, qui s'efforce l'habitude de juger, de se diriger en tout d'après les lumières de l'Évangile et les exemples de notre Seigneur. C'est une vie surnaturelle. Elle consiste en deux mouvements principaux, l'aversio a creatura et la conversio ad Deum. Aversio a creatura, se détourner des choses créées, se détourner des attaches aux choses ici-bas, et conversio ad Deum, se tourner vers Dieu, être fidèle au mouvement de la grâce. Premier point, cette vie naturelle, cette vie surnaturelle, cette vie intérieure est la vie de Jésus en nous. Deuxième point, cette vie naturelle peut croître par une nouvelle infusion de la grâce. Elle peut croître, elle peut grandir. Que ce soit à l'occasion d'actes méritoires, comme un acte vertueux, un travail, offert au bon Dieu, une souffrance, une privation, en union avec notre Seigneur, un renoncement, une prière, une messe. Ou bien encore, que ce soit par les sacrements, et surtout par la réception de l'Eucharistie, à condition bien sûr d'y arriver avec les dispositions convenables. Il est impossible que nous recevions notre Seigneur et que cette vie ne grandisse pas en nous si nous avons tout fait pour bien préparer notre communion. Voyez-vous, pendant la dernière guerre mondiale, un jeune homme avait été prisonnier par les Allemands, il était en camp de concentration. Il vivait dans un grand dénuement, il subissait de grandes souffrances, le froid déjà, diverses privations. Et dans ce camp, il a été touché par la grâce. Notre Seigneur l'a converti, l'a choisi pour lui. Il y avait des prêtres, il s'est confessé. Et malgré les privations qu'il avait à subir, incité par la grâce, incité par notre Seigneur qui voulait faire grandir cette âme, il s'est mis à ajouter d'autres pénitences, d'autres privations. Voilà l'activité d'une âme fidèle à la grâce qui grandit, fidèle à cet élan de générosité que le bon Dieu met dans une âme. Premier point, la vie intérieure et la vie de Jésus en nous. Deuxième point, cette vie peut croître. Troisième point, sans l'emploi de certains moyens, nous ne pouvons que tomber dans un certain aveuglement de l'esprit et un affaiblissement de la volonté. Et cette diminution progressive de la vie de Jésus en nous emmène tout doucement et très sûrement à la tiédeur de volonté. Or, notre Seigneur n'aime pas la tiédeur. Il faut vraiment que nous ayons gravé dans nos cœurs et dans nos esprits les paroles de notre Seigneur à l'évêque de Laodicée dans l'Apocalypse. Vous les connaissez, il est bon de les répéter. Parce que tu es tiède, que tu n'es ni froid ni chaud, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu es tiède, que tu n'es ni froid ni chaud, je te vomirai de ma bouche. Et voyez-vous, dans un sens, notre Seigneur souffre plus de la lâcheté, du manque de générosité de ceux qui se prétendent ses amis que des attaques des méchants. Que les méchants l'attaquent, c'est normal, c'est leur rôle. Mais ceux qui se disent ses amis, pourquoi ne le sont-ils pas vraiment ? Pourquoi n'y a-t-il pas cette générosité, ce don d'eux-mêmes ? Notre Seigneur a-t-il été tiède quand il est mort sur la croix pour nous, quand il a versé tout son sang ? Non, il a tout donné, jusqu'à la dernière goutte. Et donc, si nous avons le malheur de croupir dans une certaine tiédeur, et là il y a un examen à faire, il y a grande nécessité pour nous d'en sortir. Comment faire ? Premièrement, raviver en nous la sainte crainte de Dieu. Remettre devant nos yeux ce à quoi nous serons confrontés au jour de notre mort. Le jugement particulier, tout quitter. Voir sa vie comme on l'a vécue. Et combien nous serons heureux ce jour-là, si nous avons été vraiment généreux, si nous avons tout donné à notre Seigneur. Deuxième point, qui est supérieur au premier, qui est plus fort même. Repasser devant nos yeux les plaies de notre Seigneur, les marques des clous dans ses mains, dans ses pieds, son cœur transpercé, sa passion, son agonie au jardin des Oliviers, sa mort sur la croix. Tout ce qu'a fait notre Seigneur pour nous. Deuxième grand moyen pour sortir de la tiédeur. Et là, il est bon pour nous de faire de temps en temps, même souvent, le chemin de la croix pour reprendre un regain d'énergie au pied de la croix. Craignons donc d'avoir une vie intérieure inférieure à celle que Jésus attend de nous. Et deux signes sont infaillibles, qui montre bien que nous n'avons pas la vie intérieure que notre Seigneur attend de nous. Premier signe, nous n'avons plus ce désir d'augmenter, nous n'avons plus cette soif de Jésus. Et dans la vie intérieure qui n'avance pas, recule. C'est automatique. Deuxième signe, si nous n'avons pas le minimum de recueillement qui nous permettrait de garder notre cœur dans la pureté et dans une grande générosité. Or, ce minimum de recueillement fait assurément défaut quand il n'y a pas de prière du matin, pas de prière du soir, pas d'examen de conscience, pas de chapelet quotidien, pas de réception fréquente des sacrements de confession et d'eucharistie. Il y a aussi des moyens à prendre dans la journée. Il n'y a pas de recueillement aussi s'il n'y a pas cette pratique très salutaire des oraisons jaculatoires, cette petite prière qu'on fait au bon Dieu dans la journée, pour lui donner notre cœur, pour le prier. Et dont Chotard insiste surtout sur les oraisons jaculatoires de supplication. Supplier le bon Dieu de venir à notre secours. Mon Dieu, venez à mon aide. Douce Vierge Marie, protégez-moi du péché. Douce Vierge Marie, inspirez-moi les pénitences que vous voulez que je fasse. Donnez-moi la force de les faire. Oraison jaculatoire de supplication. Suppliez le bon Dieu de nous secourir de sa grâce, car sans lui nous sommes perdus. Et puis encore un moyen sur lequel nous aimerions insister lourdement, et pour cela deux exemples. Premier exemple, nous sommes en 1794, en pleine tourmente révolutionnaire. Monsieur de la Harpe, qui a été un des coryphées de la Révolution, un ardent révolutionnaire, a été trahi par ses anciens amis, il est en prison au Luxembourg. La Révolution finit toujours par manger ses propres enfants. Toujours. Et là, dans sa prison, il se morfond. Il sait que la mort est proche. Il en a pour un mois, deux semaines, 10 jours, 2 jours, il n'en sait rien. La mort est proche. Et là, il est perdu. Toutes ses espérances se sont évanouies. Plus rien ne reste. Il a tout perdu. Et alors qu'il se morfond dans sa prison, il trouve à côté de lui un petit livre. C'est l'imitation de Jésus-Christ. Il l'ouvre au hasard. Que lit-il ? Me voici, mon fils. Parce que vous m'avez invoqué, me voici. Me voici, mon fils, parce que vous m'avez invoqué, me voici. Il est touché au fond du cœur. Son cœur se fend. Il pleure, il est converti. Il est converti. Et la joie
renaît dans ce cœur. L'espérance renaît dans ce cœur. Deuxième exemple.
Augustin est dans le trouble.
Il n'a pas la force de quitter le péché. Il est chez un ami, dans son jardin, il est seul, assis sur un banc.
Il repasse dans son esprit
ces jeunes filles, ces jeunes enfants qui sont morts martyrs, qui ont tout donné, qui ont subi des souffrances terribles. Et lui, il vit dans le péché, il n'a pas la force de sortir du péché. Eux, ils ont eu la force de tout donner. Lui, il ne l'a pas. Lui, le grand avocat, lui qui a fait des études, lui qui est connu, qui est célèbre, il n'a pas la force.
Et ses pensées tournent dans son esprit.
Tout à coup, il entend passer dans la rue un enfant qui chante « Tolle et legge,
tolle et legge, prends Élie, prends Élie. »
Il est surpris, il tourne la tête, il trouve sur le banc à côté de lui la Sainte Écriture. Il l'ouvre au hasard, comme Monsieur de l'Art.
C'est saint Paul qui parle. Épître aux Romains. Ne vivez pas dans l'impureté, la boisson elle est débauche, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus. Revêtez-vous du Seigneur Jésus.
Saint Augustin a compris. Il est converti, il est touché, il pleure. Il quitte le péché. Importance de la lecture. Importance des bons livres.
Dans une révélation célèbre du bon Dieu à Sainte Catherine de Sienne,
révélation qui a duré pendant 4 jours, des scribes notaient ce que le bon Dieu disait à Sainte Catherine.
Le bon Dieu a dit à un moment, la lecture, l'instruction est le moyen ordinaire
par lequel je fais grandir les âmes. Le moyen ordinaire. Et voyez-vous, si nous ne prenons pas les moyens ordinaires que nous pouvons prendre, il n'y aura pas de miracle pour nous. Il n'y aura pas de miracle. Si l'instruction, la lecture est le moyen ordinaire, alors nous devons le prendre. Sans quoi nous n'aurons pas droit à grandir dans la grâce, à être plus fidèles à notre Seigneur Jésus-Christ.
Concluons. Quel que soit l'état de notre âme, l'état dans lequel nous sommes, Jésus nous offre maintenant, aujourd'hui, si nous voulons prier et devenir fidèles à sa grâce, tous les moyens de revenir à une vraie vie intérieure. Seule condition pour être vraiment heureux ici-bas et au ciel. Bien sûr, c'est tout un programme de sainteté. Il y aura des efforts, il y aura des souffrances, nous les voyons déjà. Il y aura des renoncements, c'est évident. Mais qui serait assez lâche, qui serait assez veule pour refuser cette main tendue de notre Seigneur? Alors qu'en nous tendant la main, il nous donne sa grâce toute puissante pour nous sortir de l'état dans lequel nous sommes. Il y a quelqu'un au milieu de nous qui attend que nous lui donnions tout notre cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.